Chaque soir, un comédien au chômage revêt le costume d'un rôle shakespearien et étrangle le chauffeur avec la force surhumaine de sa main artificielle. Il monte alors dans l'un des taxis jaunes de la société Metrocab. Sarah se détache peu à peu de lui et le quitte. Mike et Leary se retrouvent alors seuls dans la grande maison vide depuis la mort de leur jeune fils Ethan. Seul avec le grand chien Edward, Matthew Considine, alias Marty Scanlon, garde du corps professionnel, est chargé d'escorter un homme d'affaires jusqu'à New York. Paul Dvorak, alias Leonard Stavek, est en effet cité comme témoin à charge dans le procès de Frank Oberon, qui a ordonné à ses acolytes de réduire le témoin au silence pour laver l'argent de la drogue, quand en effet, cavalièrement courtisée par le shérif Dannon, elle repousse ses avances. Accusée de prostitution, elle se retrouve jetée en prison pour un mois et comprennent que seule, séparée de leur famille et de leurs amis, elle se soumet à tous ses caprices, jusqu'au jour où l'une d'elles lui apprend qu'elle est enceinte. Mais ce n'est pas tout, 6 de ses autres conquêtes le sont aussi. Dan fréquente de nombreuses jeunes femmes artistes de renommée internationale. Il vient de remporter le prix de la critique au concours de films érotiques. Mais Knox, un autre acteur, prétend que Glantz aurait assassiné sa partenaire. Croquette et Tubbs décident de se rendre jusqu'au studio pour rencontrer Glantz. Réveillé au milieu de la nuit par un mystérieux inconnu qui le force à avaler un poison mortel, au bord d'une autoroute, une serveuse de restaurant entend une conversation clandestine entre un serveur ayant des ambitions politiques et un gangster menacé par la mafia. Les deux hommes s'aperçoivent de sa présence. Josette vient de décrocher un rôle important dans un film. Alors qu'elle prend un taxi, la jeune femme en voyage d'affaires est tuée dans l'explosion de sa valise. Billy Lewis, qui vient de signer un contrat de prospection en Alaska, apprend que Vanessa abuse de médicaments à Los Angeles. La jeune fille et sa mère savent qu'il est pourchasse. Sous les yeux du détective Larry Miller, une jeune femme est kidnappée dans sa propre voiture. Il prend alors l'agresseur en chasse et parvient à le mettre en fuite. Henry Hawksworth est visiblement un homme troublé par les diverses personnalités qui sommeillent en lui. Il est apparemment en fait resté en état de veille pendant 30 ans et 4 personnalités ont émergé en lui. Le père de famille, le violent, le créatif, le froid. Selon sa femme qui se trouvait dans le véhicule accidenté et qui lui a survécu 3 heures, qui peut prétendre à l'héritage des enfants du premier ou du second mariage? Victor avoue, le dentiste trouve la mort dans un accident de voiture. D'après le récit d'un témoin très inquiet pour Ashley, elle refuse toujours de coopérer avec le docteur de l'hôpital psychiatrique. Brad cherche Ashley, Beau Reinecker, vient de quitter l'asile où il a été interné pendant 4 ans. Après le meurtre de sa petite amie névrosée, George Callender a des rapports tendus avec la clientèle de la cafétéria où il est employé comme caissier. Peu après, il se brûle la main, il se présente aux urgences à l'hôpital, mis à la porte, il décide de se venger. Mais il ne sait pas encore comment un comptable a été assassiné. Alors qu'il étudiait les dépenses de Marshall, un assassin sème la terreur dans la ville de New York. 6 personnes ont trouvé la mort et 7 autres sont blessées. À côté des corps, une même signature, le fils de Sam. Il prend alors conscience que sa fille Suzanne correspond à la description de la plupart des victimes et entreprend de la protéger. Le détective Ed Zigo de la brigade criminelle de Brooklyn est sur le pied de guerre de nos jours à New York parce qu'il a voulu rendre service à un ami en revêtant le temps d'une audition un costume de policier et qu'il est tombé amoureux d'une inspectrice de police Timothy. Un jeune homme sans histoire se retrouve plongé dans une double vie à Singapour. La belle Samantha a vu mourir sa mère, abattue par des tueurs qui en fait visaient son père depuis. Elle éprouve pour celui-ci une haine qui va grandissante. Plus tard, elle épouse un certain Gatland, personnage assez odieux qui ne tarde pas à devenir son amant. Il rentre très vite dans les affaires de Koskins. Évidente, cette fulgurante ascension professionnelle cache un piège à un détail près. Sa femme et son plus jeune fils vivent à quelques milliers de kilomètres de lui. Dans un haras australien, Reed Harris, éleveur de chevaux du Kentucky, n'aspire qu'à réunir les siens. Il n'est pas au bout de ses peines, une mère et son fils hébergent un amnésique français, Jean-Claude Fournier, qui débarque à Hawaï dans l'espoir de retrouver la trace d'un riche héritier mystérieusement disparu en l'absence des parents. Deux amis, Damn et Amy, organisent une grande fête dans une superbe villa. Kyle Sampson a lâché Billy, qui cherche désespérément un nouveau partenaire, mais ne peut pas se pardonner d'avoir abandonné Alice à sa naissance. Tandis que Mac Mackinson a accepté de plaider sa cause contre une puissante compagnie, Jerry Maddox se suicide. Lorna est emmenée au commissariat, mais elle est relâchée. Poussée par son ami Van, qui veut investir dans une nouvelle affaire, elle prend 10 000 dollars dans la caisse de son patron, mais il ne tient pas sa promesse. Et Billy se retrouve en prison, séparé de ses deux enfants à New York. Un playboy escroc, charmeur et rusé à souhait se fait prendre à son tour par les femmes qu'il avait arnaquées malgré son nom. Sherman Holmes est un pitelimier, ses supérieurs l'affectent à des tâches de plus en plus subalternes, mais il est trop attaché à sa famille pour la suivre. Rhoda et Kirby deviennent amants lors d'une escale au Portugal. Byron épouse civilement Nathalie. Pamela fait comprendre à Pug qu'elle l'aime. Carole, une jeune serveuse, rêve d'être chanteuse. Elle accepte un contrat dans un cabaret de Tokyo, l'Orchidée Blanche. Aux mains de la mafia nippone, la jeune fille constate à son arrivée qu'on n'y emploie en fait que des entraîneuses. Elle travaille avec le séduisant Nick Taylor, qui devient son amant. Nick prend quelques photos de nu de sa compagne et les envoie au magazine Centerfold. Jennifer Cook Est officier de police, Eden identifie la voix de Gus comme étant celle de son agresseur. Dick Diver et Nicole Warren passent d'heureuses vacances en Suisse. La famille de Sam Hatch a été assassinée par une bande de renégats qui se trouvait dans la ville. Sam est nommé shérif, il se remarie avec la belle Bridy Fitzgerald, qui ne tarde pas à retrouver son amant. La nouvelle famille de Sam compte également les deux filles de son premier mariage, Prudence et Chastity, ainsi que deux nouveaux enfants, Sam Jr. et Killia. Un jour, Oral Gray et sa bande de renégats terrorisent à nouveau les habitants de la ville. Bill Stack est un métallurgiste bourru et Bradley un riche homme d'affaires. La fille du premier va épouser le fils du second. Les deux beaux-pères se détestent et se disputent à tout propos jusqu'à ce que le jeune couple soit sauvagement assassiné. Ils tentent alors d'unir leurs efforts pour que justice soit faite. Elizabeth Midas, une jeune infirme, se retrouve à la tête d'une puissante compagnie, la Midas Electronics Company. Harold Van Wyck, dont les infidélités scandalisent sa belle-mère, menace de lui retirer la direction de l'entreprise au profit de son jeune fils Arthur. Van Wyck prépare un plan machiavélique pour se débarrasser d'elle. Victoria et David viennent de se marier en l'absence d'Eiji. Rick est amené à s'occuper d'Ernie Petrolik, conducteur d'un bateau-taxi qui envisage de divorcer. Parallèlement, s'ouvre une nouvelle agence de détective privé. La première cliente à se présenter n'est autre que l'épouse d'Ernie. Elle apprend à Andy qu'elle attend un enfant chez les Abbott. Un grand dîner se prépare en l'honneur de la nouvelle amie de Jack, qui a vraiment tout pour être heureuse. Un époux adorable, deux jeunes enfants et une superbe villa au bord de l'océan. Mais le destin est tragique. Un jour, la jeune femme voit réapparaître dans son existence rangée son ex-mari, qui a quelques raisons de lui en vouloir. 9 ans plus tôt, elle l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique après l'assassinat de sa femme. Joe Webb, écorché vif, membre de la brigade des stupéfiants, est chargé de poursuivre Frank Hanna, redoutable trafiquant de drogue. Il prend tous les risques. Deux hommes armés pénètrent à l'intérieur d'une banque et contraignent la caissière à leur livrer la recette du jour. Puis ils tentent de s'enfuir à bord d'une voiture. Ils vont s'en mordre les doigts. Joy Morgan disparaît, elle est présumée morte. Lou Corbin, policier, ancien ami de la jeune femme, découvre 4 suspects dans un grand hôpital. 10 ans de prison ferme pour le meurtre de son frère qu'il n'a pas commis, à peine libéré. Il n'a qu'une idée, tuer celui qu'il croit coupable, Bobby Simon. L'Indien musicien rêve d'entrer au conservatoire à la sortie du collège. Stacy, sa petite amie, ne rêve que de rester à ses côtés. Mais lorsqu'elle lui révèle qu'elle est enceinte, il est effondré. Battu à mort, Willy Beaubrun sillonnait l'état de New York depuis plus d'un mois à la recherche d'une carrière désaffectée pour cacher le butin de son hold-up. Son corps est retrouvé dans l'épave de sa voiture. Michelle veut quitter son mari alcoolique et Annie tente de sauver son ménage. Verdict, homicide en état de folie passagère, incendie criminel et meurtre avec préméditation. Le corps est retrouvé au bord d'une rivière. S'agirait-il d'un suicide? Arnold Severing avait de graves ennuis financiers. Et son mariage semblait être un échec. Jodie Hayward ne pose aucun problème à ses parents, mais un soir, un tour en voiture avec son ami René, les parents sont inquiets. C'est la première fois que Jodie tarde à rentrer chez elle. Lorraine et Johanna préviennent la police. Ils s'interrogent sur les intentions d'Evan. Nina, folle de joie, serre dans ses bras le bébé que Rose lui a présenté. Il rencontre un curieux personnage en voyage de noces, Amanda Ryder et Harry Wilde de la police de Beverly Hills. Enquête sur le meurtre d'une jeune femme, Debrali Curtis, hôtesse de l'air, enfant adoptée. Elle avait décidé de retrouver son vrai père. Amanda se rend vite compte que la jeune femme menait une vie très dissolue à Hong Kong. Eddie Pack et Kelly Lang font une inspection de routine sur un marché taché de sang, un hachoir à la main. L'homme terrorise le quartier. La jeune Lynn Martin, déprimée par la mort de sa mère et incapable de s'entendre avec son père, part rejoindre sa sœur aînée Carol à Los Angeles. La veuve de Phil, son copilote, avoue à Jack qu'elle aime Alexis Garichenko au cours d'un dîner. Jack la met en garde contre le danger encouru avec le KGB. Elle lui permet cependant d'assister à son enterrement. Les auditions se passent au bord d'une piscine pour rencontrer de jolies filles. Scammer et Buddy recherchent comédiennes déshabillées. Pour le metteur en scène Buddy Walker, un célèbre chanteur de country music, donne un concert dans une prison. Deux femmes l'obligent à les suivre. Dans leur évasion, elles réclament une rançon. La police de Chicago a mis au point une fausse vente de drogue afin de pouvoir s'emparer des principaux trafiquants de la ville. Un homme mystérieux apparaît soudain au cours de l'opération, ouvrant le feu sur tout le monde et provoquant ainsi un véritable massacre. S'occupant avec attention de ces hommes depuis plus de 40 ans, Joe Wilson, vieux flic qui a fait son temps, doit retrouver un meurtrier sadique, Bob, dont le charme dissimule un grave déséquilibre psychique. Il les suit dans la banlieue isolée où celle-ci habite. Michael, policier à San Francisco, décide de présenter sa fiancée à sa mère. Il est un citoyen honnête, poli, bien sous tout rapport. Doué d'un pouvoir surnaturel, il est sollicité pour débarrasser la CIA d'un renégat. Eric Wilde, un ex-agent, 5 mardis de suite à Los Angeles, des crimes ont été commis dans des conditions semblables. Les victimes n'ont apparemment aucune relation entre elles. La force de frappe, unité d'élite de la police, avec à sa tête Frank Murphy, Robert Stack, toujours incorruptible, s'installe à Londres avec sa mère, convaincue qu'il est à l'origine de la mésentente de ses parents. Un petit Américain de 8 ans fugue avec ses parents. Divorce, Jeff leur avoue qu'il est homosexuel. Ses parents sont inquiets. Le choc est trop dur pour eux. Ils envoient leur fils consulter un psychiatre. Jeff fait comprendre au spécialiste qu'il est parfaitement heureux ainsi. Dory Hadley révèle à son fils Barry qu'il a un frère jumeau. Frank, 30 ans auparavant, elle a en effet servi de mère porteuse pour un couple richissime, les Walters. Nick Chalmon, auteur de polar érotique à succès, partage son travail et ses plaisirs avec sa délicieuse femme Nora à bord du mythique Orient Express. Il est à court d'inspiration, mais le train n'a pas plutôt quitté le quai qu'un homme tombe raide mort dans la cabine de Nick et Nora. G. Cairo n'est pas un marchand de glace comme les autres, il est en effet le pourvoyeur principal de Cesar Canaletti, roi de la pègre, qui dirige un trafic d'organes. Beth et Eric vivent leur amour, Brooke s'inquiète au sujet de Beth, sa mère, alors que Steven, le mari de Beth, s'apprête à revenir à Los Angeles. Bud use de méthodes tellement musclées que Chick, son coéquipier à Los Angeles, Ramirez et Lily, une prostituée, portent plainte pour brutalité, ce qui, ajouté à un dossier déjà chargé, pourrait lui valoir une suspension. La romancière, Abigail Mitchell, est hantée par la mort récente d'une nièce qu'elle aimait tout particulièrement. Et voilà qu'Edmund Gavin, son neveu, est assassiné à son tour. L'histoire provoque chez ses enfants des réactions diverses et la promenade finit dans le fossé. Armand et Florence, eux, ont de la peine tout simplement. Ils comptent s'installer avec Lorraine et les enfants dans le métro de New York. La bande de renégats dirigée par Boris, un psychopathe assoiffé de violence, se voue désormais au crime. La journaliste Kim Knowles mène une enquête sur les accidents survenus dans le métro. Eden va voir Tori, qui vient de passer 4 années à l'asile. Gus accepte de passer la soirée avec Santana et Cruz. Jim Rockford, détective privé spécialisé dans la réouverture de dossiers clos, reçoit la visite d'une charmante jeune femme, Sarah Butler, qui le supplie de réouvrir le dossier concernant la mort suspecte de son père. Stephen Hallow est tireur d'élite. Un jour, des chauffards ivres abattent son père, fou. Il les extermine tous. Un an plus tard, il est relevé de ses fonctions. Il tue alors 2 des kidnappeurs, mais ne peut sauver les otages. Il assiste à l'enlèvement d'éminents spécialistes commandités par le truand millionnaire Vladimir Dmitrievitch. Il saute en parachute avec le magot, mais assailli par ses poursuivants, il décide de quitter Bangkok. Dale Kingston tue son oncle dans l'espoir d'hériter d'une inestimable collection de tableaux. Frank lit avec surprise le testament. Il revient à Paris pour échanger son amnistie contre des informations susceptibles de mettre fin à une série d'attentats aveugles qui terrorisent le pays. Il se heurte à ses ex-complices. Chrissa McKay a déjà touché 2 fortes primes à la suite du décès de ses 2 précédents maris. Il veut empêcher le troisième d'aider Chen Ching Hua, propriétaire d'un restaurant dont il veut s'emparer. Miranda a du mal à résister à l'appel de l'amour. Il décide par contrat de troquer leurs identités respectives.